RFI, 7h à Paris, 9h à Mamoudzou, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal, bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une de ce journal, à Mayotte, une aide très lente à arriver. La distribution d'eau aux sinistrés s'organise plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido. Reportage à suivre de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, il y a 50 ans, jour pour jour, c'était le référendum pour l'indépendance des Comores. Mayotte a choisi de rester française. Le débat sur son appartenance suscite depuis un vif intérêt. On en parle dans un instant. Dans l'actualité également, en Syrie, on reviendra sur la nomination d'Assad al-Shibani, le chef de la diplomatie du gouvernement chargé de la transition, près de deux semaines après la chute du régime de Bachar el-Assad. Et puis en Serbie, ensemble contre la corruption et pour un état de droit. Nouvelle manifestation à Belgrade aujourd'hui, plusieurs semaines après 15 morts dans l'effondrement du toit d'une gare, alors qu'aucun responsable n'a été traduit en justice.
À Mayotte, les habitants attendent encore de l'aide plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido.
L'aide arrive lentement et le manque d'eau se fait sentir notamment. Elle est partiellement rétablie à Mamoudzou, chef-lieu du département. Hier, de nombreux habitants sont rentrés chez eux avec un pack de bouteilles. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a promis ce samedi que 90% de la population serait reliée à l'eau courante d'ici à dimanche soir. Nos envoyés spéciaux, Nicolas Fellman et Jade El-Khoury, se sont rendus dans le plus grand bidonville de Mayotte, Kaweni. Pour la première fois, hier, de l'eau a été livrée. Reportage.
Ils sont dans la file des dizaines en quête de quelques bouteilles d'eau, une ressource qui manque cruellement dans le bidonville.
Ils n'ont pas remis de l'eau jusqu'à présent. Donc voilà, on récupérait l'eau de la pluie pour faire à manger, tout ça, tout ça. On essaye de récupérer de l'eau comme on peut. Donc aujourd'hui, on a vu distribuer des packs d'eau, donc c'est mieux que rien, on va dire. Donc voilà.
Une trentaine de gendarmes de la sécurité civile déchargent et distribuent les packs d'eau.
On est venu en véhicule militaire et on a un conteneur rempli d'eau. Le but c'est de le vider entièrement. On a un deuxième camion qui est là-bas qui est déjà en cours de dépotement. On repart au port, on revient et on fait la même mission.
Mais la distribution est limitée, un pack par personne. Elio récupère le sien. Le premier et le seul livré depuis une semaine.
Les habitants sont déjà en colère, ça fait déjà une semaine qu'on passe dans les moments difficiles et tout. Et là, on ne donne que des paquets d'eau et voilà. Ou même les pompiers n'ont pas passé ici à Kaweni, il n'y a rien qui se passe du tout.
Elio repart ses bouteilles d'eau sur la tête en direction de ses collines, encore défigurées par le passage du cyclone. À Mamoudzou, Nicolas Feldman, Jade El-Khoury, RFI.
Le président français Emmanuel Macron s'est lui rendu plus tôt dans la semaine à Mayotte où il a dû faire face à la colère et au dénuement des Mahorais.
Le chef de l'État français sur place a notamment répondu à une dame qui l'interpellait sur l'immigration illégale, créant une séquence polémique à Mayotte. Le ministre démissionnaire français de l'Intérieur a lui déclaré que la reconstruction de l'île passait aussi par un nouveau durcissement de la législation contre l'immigration clandestine en provenance des Comores. Déclaration qui a suscité une très vive réaction à Moroni. Je cite « On ne peut pas être ministre régalien d'une république comme la France et parler de cette façon. Les Comores qui ont aussi exprimé aux autorités françaises leur disponibilité à envoyer de l'eau et des vivres pour aider, je cite, leurs frères et sœurs de Mayotte. »
Et cette actualité intervient alors qu'il y a 50 ans, jour pour jour, justement, se tenait le référendum pour l'indépendance des Comores.
Contrairement à ce qui était prévu, les résultats avaient alors été comptés île par île. Si trois sur les quatre îles qui constituent cet archipel ont choisi l'indépendance, Mayotte avait opté pour rester française. Et depuis, l'archipel des Comores revendique sans relâche la comorianité de Mayotte. Le débat sur son appartenance suscite depuis un vif intérêt, une question de souveraineté, d'histoire et d'identité. Abdallah Zembaba.
À proximité de la place de l'indépendance à Moroni, un panneau affiche clairement « Mayotte est comorienne et le restera à jamais ». Pour Houmed Msédié, conseiller politique du président Azali Assoumani, les Comores ne vont jamais transiger sur cette revendication.
« Mayotte est toujours comorienne en nous fondant sur trois principes. Le premier, c'est que nous sommes un seul peuple, c'est une seule nation. Deuxièmement, par respect aux accords de juin 1973 qui préconisait l'accession des Comores dans son intégralité territoriale. Le troisième principe, c'est le principe qui émane des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc Mayotte et Comorienne.
Maître Atiki Youssouf, membre du comité maoré qui milite pour le retour de Mayotte, affirme que l'île est comorienne en raison de son histoire et de sa culture commune et que cela constitue un fait intangible.
L'acte de naissance de notre jeune nation n'a jamais dit que les Comores sont composés de trois îles pour que l'on revendique une quatrième qui n'est pas à nous. Notre revendication est que l'indépendance de notre territoire soit achevée et que le gouvernement comorien puisse librement exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est une question d'histoire.
Pour tout Comorien, défendre Mayotte, c'est rappeler que les frontières et la politique ne peuvent effacer des siècles d'histoire commune, de liens familiaux et une identité culturelle qui résiste au temps et aux divisions coloniales. Abdallah Mzembaba Moroni.
Et alors que le président français rentre à Paris ce matin après trois jours de déplacement à Mayotte donc, mais aussi à Djibouti et en Éthiopie, toujours pas de fumée blanche du côté de Matignon pour annoncer le futur gouvernement de François Bayrou.
Selon le président des députés Modem, Marc Fesneau, le nouveau Premier ministre continue à affiner son équipe. La liste complète du gouvernement devrait être présentée en une seule fois et avant Noël, précise-t-il ce dimanche dans la tribune. À noter cependant que le nouveau gouvernement ne sera probablement pas annoncé ce lundi, puisque le chef de l'État a annoncé une journée de deuil national pour les Maorés après le passage du cyclone Chido.
RFI.
En Syrie, le nouveau pouvoir à Damas a nommé hier un nouveau ministre des Affaires étrangères.
Son nom, Assad al-Shibani, une nomination qui est tombée en même temps que celle d'un nouveau ministre de la Défense, moins d'une semaine après la nomination de Mohamed el-Bachir au poste de premier ministre de la transition. Ces deux nominations à la diplomatie et à la défense syrienne sont cruciales dans la période actuelle, Julien, face à un rétablissement des contacts avec les pays occidentaux, mais aussi à des tentatives de reprendre en main la sécurité dans le pays. Les précisions de Paul Khalife.
La nomination d'Assad Hassan al-Shibani à la tête du ministère des Affaires étrangères et de Marhaf al-Qasra à la Défense illustre la volonté du groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, de verrouiller les postes clés de la diplomatie et de la sécurité. Les deux hommes, âgés de moins de 40 ans, sont de proches lieutenants du nouvel homme fort de Damas et chef de HTS, Ahmad al-Shara, de son nom de guerre, Abu Muhammad al-Julani. Assad al-Shibani est originaire de Hasaké, dans le nord-est de la Syrie. Ce diplômé en langue et littérature anglaise de la faculté des arts et des lettres de l'université de Damas a joué un rôle de premier plan dans l'organisation de l'administration politique installée par les rebelles dans la province d'Idlib. La gestion du dossier de l'aide humanitaire dans l'ancienne enclave rebelle lui a permis de tisser des relations avec les agences des Nations Unies et des diplomates étrangers. Marhaf al-Qasra, bio-ingénieur de formation, est de son côté originaire du nord de la province centrale de Hama. En sa qualité de chef militaire de HTS, il a joué un rôle important dans l'offensive éclair lancée le 27 novembre qui a abouti à la chute du régime de Bachar al-Assad 12 jours plus tard. Il aura la tâche délicate de réunir tous les groupes rebelles au sein de la nouvelle armée syrienne. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
RFI, 7h08 à Belgrade, la capitale serbe où une grande manifestation est prévue ce dimanche après plusieurs semaines déjà de mobilisation étudiante.
Mobilisation contre la corruption et pour un état de droit déclenché par un effondrement dans une gare récemment rénovée de Novi Sad qui a tué 15 personnes. Le président serbe Aleksandar Vučić a affirmé hier qu'il ne reculerait pas face à ces manifestations. Ce dimanche, pour cette nouvelle mobilisation, les étudiants devraient être rejoints par les agriculteurs et la société civile. Écoutons Natacha Mišić, une étudiante de Novi Sad.
Sincèrement, nous sommes tellement fiers de nous, car nous avons réussi avec cette mobilisation à nous prouver à quel point nous étions capables, intelligents, créatifs, et que nous avons trouvé le moyen de faire entendre nos voix. Le problème ici en Serbie, c'est la manipulation de l'information. C'est cette désinformation qui nous a poussés à commencer nos blocages. Des étudiants qui rendaient hommage aux victimes décédées suite à la chute du Haut-Vent de la gare de Novi Sad ont été agressés par des individus en raison de ces contre-vérités. L'objectif des blocages dans les universités est de créer un mouvement plus large afin que nos revendications soient entendues. Nous nous tenons au premier rang, devant les citoyens, pour que nos demandes soient satisfaites. Nous voulons que tous les documents concernant la reconstruction de la gare soient publics et transparents et que tous les responsables de la mort des 15 personnes soient jugés. On doit tout faire pour que la justice de notre pays fasse son travail.
système fonctionne.
Natacha Michic, étudiante de Novi Sad, des propos recueillis par Yelena Tomic.
Les États-Unis ont évité de justesse samedi une paralysie budgétaire et dans le même temps, Donald Trump continue de former son gouvernement.
Le président élu prendra le pouvoir dans moins d'un mois et vient de nommer Mark Burnett au poste d'émissaire au Royaume-Uni. Mark Burnett n'est autre que le créateur et producteur de l'émission The Apprentice, présentée durant de longues années par Donald Trump. On en parle avec Lubna Anaki.
Donald Trump a fait son annonce sur son réseau social Truth Social. Mark Burnett apportera un mélange unique d'expertise diplomatique et de reconnaissance internationale pour ce rôle important, a écrit le président élu. Âgé de 64 ans, Mark Burnett est un ami de longue date du républicain puisqu'il a créé et coproduit l'émission de télé-réalité The Apprentice qui a rendu célèbre Donald Trump avec notamment sa phrase culte « You are fired », vous êtes viré, même s'il était déjà connu. Cette émission a fait entrer Donald Trump dans des millions de foyers américains et construit son image d'homme d'affaires à succès. Mais avec sa longue carrière dans le divertissement, Mark Burnett n'a pas d'expérience en diplomatie et en politique internationale. Sa nomination comme émissaire au Royaume-Uni ne nécessite pas de vote au Sénat et elle s'ajoute à la longue liste de noms venus du milieu des affaires ou du divertissement choisis par Donald Trump, comme l'ancienne patronne du catch américain qui devrait diriger le département de l'éducation ou encore l'ancien joueur de football américain nommé ambassadeur. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et puis au lendemain de son retour en France et quelques jours après avoir retrouvé la liberté, le militant écologiste Paul Watson s'est rendu place de la République hier après-midi.
Après 5 mois d'incarcération au Groenland, le célèbre défenseur des baleines a pris la parole devant plusieurs centaines de militants venus l'accueillir. Marie Leveugle y était pour RFI.
Quelques centaines de personnes rassemblées, dans une main une pancarte écrite en bleu, un héros n'a pas sa place en prison. Quand la tignesse blanche de Paul Watson apparaît,
merci beaucoup,
les applaudissements retentissent.
Merci d'être venu sous la pluie et pour tout votre soutien tout au long de ces 5 derniers mois. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais de tous les activistes. On ne devrait pas être puni quand on agit pour protéger la planète.
Daniela a bravé le froid pour venir. Elle a milité toute sa vie pour l'environnement.
Je suis très 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 contente de l'élan qu'il a eu pour sa libération. Là, on ne pouvait pas le mettre en prison pour ce qu'il avait fait, quoi. À ce moment-là, on me mettait en prison quand j'étais contre les centrales nucléaires.
Christine se réjouit aussi du retour de Paul Watson, mais s'inquiète du fait qu'il ait pu être arrêté.
Ça m'effraie parce qu'au plus on est porteur de messages de protection d'environnement, au plus il y a de répression de tous les lanceurs d'alerte. Et c'est scandaleux.
Pour Céline, cette arrestation aura au moins permis de rendre plus visible le personnage de Paul Watson et donc sa cause.
Je crois qu'avant ça, on ne le connaissait pas beaucoup. Moi, je connais ça un peu, si j'y perds. Là, je pense que ça fait du bien, peut-être à l'écologie. En fait.
Pour l'heure, le militant de 74 ans n'attend qu'une chose, passer Noël en famille avant de reprendre la mer.
Les précisions de Marie Leveugle. Et c'est la fin de cette édition, Julien.
Merci Juliette Pietraszewski, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans 17 minutes, le point sur l'info africaine. Et d'ici là, notamment, ligne de défense avec Franck Alexandre. Les conflits industriels qui ralentissent le projet de nouveaux chars partagés entre la France et l'Allemagne. À suivre aussi notre tour du monde des correspondants. Et tout à fait autre chose, 3 pays et 3 façons de fêter Noël. Nous partons aux États-Unis, en Grèce et au Tchad. Mais tout de suite, les sports. Avec vous Christophe Diremzian et avec du foot, les 32e de finale de la Coupe de France et 2 clubs de Ligue 1 qui n'ont pas passé l'obstacle des clubs amateurs.
On y a droit à peu près tous les ans. Les professionnels qui se prennent les pieds dans la pelouse de terrain inhabituel pour eux face à des joueurs motivés. Coïncidence ou pas, ce sont les 2 derniers de la Ligue 1 qui passent à la trappe d'entrée de jeu. Le Havre, sorti par Saint-Brieuc, club de National 2, 1-0. Et Montpellier, qui en plus d'être éliminé, l'a fait avec style, écrasé 4-0 par Le Puy, également National 2. Pas la peine de préciser que les Héroletais ont passé un sale quart d'heure en rentrant au vestiaire lorsque leur entraîneur Jean-Louis Gasset leur a résumé tout le bien qu'ils pensaient de leur prestation.
La honte, un sentiment de honte. C'était une compétition qui pouvait nous donner un peu d'oxygène. On va bien l'analyser parce que on a été balayé. On a perdu tous les duels, on a manqué les 2 premières occasions, peut-être si on avait ouvert le score. Mais mentalement, c'est très inquiétant. Depuis que je suis arrivé, on a fait de nombreux matchs à l'extérieur. On n'a pas pris un point, on n'a pas marqué un but. Ça veut dire que la situation était importante. Là, j'espérais que dans une autre compétition, on puisse montrer plus de qualité mentale. Là, on a abandonné.
Avoir la gueule de bois avant le rayon de Noël, les Montpelliens ont réussi à le faire. Qualification nette de Nantes et de Strasbourg en revanche. Nice et Toulouse ont quand même joué à se faire peur en écartant respectivement Corté en Corse et Haut-Lyonnais, un club du Rhône, qu'au tir au but. Quant à l'Olympique Lyonnais, il a difficilement battu Fény-Aulnois, club de National 2, 2-1.
On n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné après les fêtes. Hein. Deux belles affiches à suivre aujourd'hui, Christophe.
Oui, Saint-Étienne-Marseille, 13h45 TU et Lens PSG. Les Parisiens, tenants du titre, est bien décidé à finir cette première partie de saison invaincue en championnat. Mais ça ne doit pas nous décourager, estime le milieu de terrain des 100 et or, Adrien Thomasson.
On joue le PSG qui est premier en championnat, qui est invaincu tout simplement sur la scène nationale. Après, on s'est dit que de toute façon, pour aller au bout, il fallait les jouer. Donc, que ça soit entre en deuxième de finale ou en demi-finale, pour nous, ça change rien. On a l'avantage quand même, et c'est pas neutre de les recevoir. Et on sait qu'à Bollard, un dimanche soir, dans un stade qui sera encore à guichet fermé, ça va être un bon match à jouer. Du moins, en tant que joueur, c'est vraiment des matchs qui sont bien préparés. La motivation, elle est plutôt simple dans ces moments-là. Donc, à nous de faire un gros match, parce que bien évidemment, on sait que ça va être un gros challenge.
Adrien Thomasson, Lens PSG, 20h, temps universel.
En Liga espagnole, l'Atlético Madrid plombe le FC Barcelone en fin de match pour prendre seul la tête du classement.
Coup de blizzard à Montjuïc lorsque Alexander Sorloth donne la victoire aux Colchoneros à l'arraché 2-1 en marquant à la 96e minute d'un match largement dominé par les Catalans. Deuxième défaite consécutive à domicile des joueurs d'Hansi Flick, désormais distancés de 3 longueurs par l'Atlético. SOS Manchester City toujours en détresse et une défaite de plus, cette fois face à Aston Villa. Aston Villa, 2-1. Pep Guardiola et ses hommes glissent à la 6e place de la Première Ligue. Enfin en boxe, Oleksandr Usyk reste le patron incontesté de la catégorie des poids lourds. L'Ukrainien a de nouveau battu à Riyad le Britannique Tyson Fury, comme il y a 7 mois. Une victoire au point, P-O-I-N-T-S, qui lui permet de garder ses 3 ceintures de champion du monde.
Merci Christophe Diremzian, à tout à l'heure. Et dans ligne de défense cette semaine, un projet structurant pour l'Europe de la défense, son nom le MGCS, pour Système Principal de Combat Terrestre, ce char du futur qui doit remplacer dans l'armée allemande le Léopard 2 et dans l'armée française le Leclerc vers 2040. Un projet qui peine pourtant à décoller. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Le canon de ce char du futur existe déjà. KNDS France a présenté l'Ascalon, mais il fait l'objet de désaccords entre industriels.
Et oui, qu'il est difficile de s'entendre lorsqu'on est quatre. Le char du futur porté par Thales, KNDS France, anciennement Nexter, KNDS Allemagne avec Krauss, Maffei, Wegmann, et enfin Rheinmetall, le géant allemand de la défense. Pour garantir un partage équitable des tâches, Julien, 8 piliers capacitaires ont été édictés, mais les choix technologiques seront faits après évaluation et des deux côtés du Rhin, on s'écharpe sur le canon. Rheinmetall a fait le choix d'un tube de 130 mm quand Nexter propose l'Ascalon, deux tubes pour tirer des obus de 120 et 140 mm. Et l'Ascalon, Julien, nous l'avons vu au dernier salon de Rossatori, monté sur un char Leclerc Evolution. François Agroigny, directeur de programme Char de combat futur chez KNDS France, nous en a fait la présentation.
Quatre caractéristiques essentielles. D'abord, un niveau de puissance délivré à la bouche et à la cible jamais égalé. On a là une capacité à changer de calibre en moins de 30 minutes. Troisième caractéristique, il est extrêmement compact. Donc, on utilise une architecture dite super shot. On voit ici la munition qui est une munition de 140 qui fait donc 130 mm de haut. Dernière chose, c'est qu'on travaille beaucoup à l'intégrabilité de ce canon en tourelle pour avoir une empreinte à l'intérieur de la tourelle qui est minimale. Et donc, on pourra loger plus de personnel en châssis.
Côté français, l'on craint que Rheinmetall et Krauss, Maffei, Wegmann réunis imposent le canon allemand, et ce, malgré le coup d'avance de Nexter, qui avec l'Ascalon propose une technologie de rupture.
Ascalon, c'est d'abord une technologie. Ici, elle est déclinée en 140 et en 120, mais c'est une technologie qui pourrait être déclinée dans un autre calibre si c'était de nature à faire l'assentiment des forces occidentales intéressées par le canon. Tout le monde connaît bien le canon du César aujourd'hui, qui est une référence mondiale. On espère faire de ce canon également la référence mondiale, mais cette fois-ci, pas sur le segment de l'artillerie, mais sur le segment du char.
Franck, il y a donc des arbitrages industriels lourds de conséquences.
Surtout dans un contexte de retour de la guerre de haute intensité, Julien, la France ne veut pas devenir un industriel dans le segment des chars de combat, François Groigny.
La guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène la guerre symétrique. La France était plutôt organisée autour d'une armée de projection. On voit que cette période est révolue, on est en train de changer d'air. Quand on change d'air et qu'on revient au combat symétrique, ça veut dire qu'il faut se rééquiper avec toute la gamme et pas seulement avec la gamme des véhicules médians. Et puis le segment du char est un segment stratégique puisque c'est autour de ce segment qu'est en train de se réorganiser l'industrie de défense terrestre. On est dans une phase un peu de concentration. On l'a vu, nous, avec la création de KNDS Group qui résulte de la fusion de Nexter et de Rosmafive. Mais cette concentration est plus générale, puisqu'on voit maintenant que dans MGCS, on intègre Rheinmetall, on intègre également Thales Group. Donc c'est vraiment sur ce segment de produits que s'opère la concentration de l'industrie. Et chacun travaille ses domaines d'excellence pour arriver à construire dans la durée le Lego qui va faire matcher les différents industriels.
Et pour que cela puisse matcher et satisfaire Français et Allemands, la Direction Générale de l'Armement émet l'hypothèse d'une coexistence de deux chars différents, rappelant que le projet commun ne préfigure en rien la nature du char du futur, MGCS étant avant tout un système de systèmes avec un cloud de combat et des drones, mais qui pour l'heure, Julien, reste à l'état d'ébauche.
Franck Alexandre pour Ligne de Défense, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et de la crèche au sapin, du gui à la couronne de l'avent, du hou à la bûche, c'est dans quelques jours. Noël est l'une des fêtes les plus riches en symboles sacrés comme profanes. Trois exemples dans notre tour du monde des correspondants ce matin. À commencer par les États-Unis et New York qui s'illuminent chaque fin d'année. L'un des symboles de Noël dans la grosse pomme, c'est bien sûr le grand sapin du Rockefeller Center. Une tradition qui dure depuis près d'un siècle, Loubna Anaki.
Oui, 92 ans pour être exact, et pour la petite année anecdote, cela a commencé alors que le Rockefeller Center n'existait même pas encore. Ce sont les ouvriers qui participaient à la construction du fameux bâtiment qui ont souhaité apporter un peu de joie et d'esprit de Noël au site durant la Grande Dépression. Et ce premier sapin était d'une taille normale. Ils l'ont décoré avec des guirlandes en papier, des fruits et même des boîtes de conserve. Et oui, rien à voir avec le sapin d'aujourd'hui. Les Américains, on le sait, aiment faire les choses en grand. Et au fil des années, le sapin du Rockefeller Center est devenu gigantesque. Et la cérémonie d'illumination marque désormais le début de la saison des fêtes ici. L'arbre est choisi avec soin sur le territoire américain et c'est toute une organisation pour le transporter jusqu'à New York. Une fois, il est même venu du Canada voisin. Cette année, il mesure 23 mètres de haut, pèse 11 tonnes et il faut 50 000 lumières multicolores pour le décorer. C'est 8 km de fil en tout. Et il faut savoir qu'une fois les fêtes terminées, eh bien, le sapin est donné à une organisation qui utilise le bois pour construire des maisons pour des familles défavorisées.
Loubna Anaki à New York et les États-Unis où entre 25 et 30 millions de sapins de Noël sont vendus chaque année. C'est moins le cas en Grèce, où le conifère n'a pas le monopole des décorations. Une tradition parallèle, loin d'être marginale, consiste à illuminer, voire enguirlander, un bateau à voile. Il peut être miniature ou grandeur nature dans l'un des nombreux ports du pays, historiquement tourné vers la mer, Joël Bronner.
Si vous passez place Syntagma, au cœur d'Athènes, vous verrez, sans grande surprise, un sapin géant comme symbole de cette période de Noël et de ses festivités. Cette nouvelle tradition s'est progressivement implantée, il y a 200 ans, à la naissance de la Grèce moderne, pour totalement s'imposer au courant du siècle dernier. Mais dans le pays, l'originalité, c'est qu'il y a en effet une autre tradition séculaire qui continue à coexister avec celle du sapin, celle de décorer des caravakia, c'est-à-dire des petits bateaux. La genèse exacte de cette coutume populaire reste nébuleuse, mais elle date d'une époque où la majorité des familles de la région comptaient un ou plusieurs marins dans leur rang. Certains évoquent une possible offrande à Saint-Nicolas, le protecteur de ces marins, d'autres un hommage aux travailleurs retenus en mer et absents des festivités de fin d'année. Une chose est sûre, c'est la géographie de cette région côtière, associée au poids économique majeur des métiers de la mer, qui en est à l'origine. Et de nos jours, les bateaux sont toujours un symbole fort, puisque la marine marchande grecque reste l'un des piliers économiques du pays.
Joël Bronner à Athènes pour RFI. Et puis, dernière étape au Tchad, où l'on fête aussi Noël, bien que l'islam soit la religion majoritaire du pays, la communauté chrétienne est aussi largement présente, en particulier les catholiques et les protestants. Alors, à N'Djamena, capitale où les religions cohabitent, Noël est surtout la fête des enfants et du partage, Nadia Ben Mafoud.
Les enfants se retrouvent entre cousins, tous vêtus de nouveaux habits achetés
pour l'occasion. Ils reçoivent des cadeaux de leurs parents et en distribuent aux plus démunis. Dans certains quartiers, les enfants font la tournée des maisons du voisinage pour recevoir des gâteaux de Noël, des sortes de cakes tressés préparés quelques jours avant le 24 décembre. Pour ce qui est du repas de Noël, les familles qui en ont les moyens sacrifient un animal chez eux, un mouton, une chèvre ou encore un porc. Chacun égorge ce qu'il peut selon son budget. Un dîner en famille est organisé autour de ce grand méchoui. Certains invitent même leurs voisins et amis musulmans à partager ce moment avec eux. Et puis la décoration est un élément très important. Dans les salons, on retrouve des sapins, des guirlandes, des ballons colorés, tout ce qu'il faut pour égayer l'intérieur et insuffler une ambiance de fête, mais presque aucun signe du Père Noël. Considéré comme une figure païenne et symbole du monde consumériste, il est banni des lieux de culte catholiques et protestants. Le soir du 24, après le dîner, chacun se dirige vers son lieu de culte habituel pour la messe de minuit.
Nadia Benmafoud N'Djamena au Tchad et notre tour du monde de correspondants à retrouver sur RFI.fr. 7h25 à Paris. Et sur RFI, un nouveau journal Afrique dans 5 minutes. Mais d'abord, notre rendez-vous du dimanche à la découverte du monde des plantes et des animaux. C'est dans ta nature, vous a déjà parlé des oiseaux migrateurs, des poissons migrateurs. Mais savez-vous qu'il existe aussi des plantes migratrices? C'est le sujet d'une exposition qui se tient à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Florent Guignard.
Vous n'allez plus regarder vos chaussures de la même façon. L'exposition Migration du vivant au Jardin botanique de Bordeaux commence avec l'expérience réalisée par l'artiste Gérard Auré, qui a collecté chez des voyageurs les graines et les spores accrochés à leurs semelles. Il les a plantées et ça a poussé. Mélissa Porte est en charge de cette exposition.
Ça prend en quelques mois. Ça commence par des tapis bactériens, ensuite des algues, des mousses. Et puis petit à petit, donc carrément des plantes. Ces micro-paysages sont le témoignage de choses qui ont voyagé sous les pieds des gens.
À la base, pourtant, et c'est ce qui les différencie des animaux, les plantes sont immobiles, le pied dans la terre.
Elles sont de souche, comme on dit souvent. Mais sans migration, sans mouvement, il n'y a pas de vie.
Et la vie des plantes sur Terre a commencé par une migration.
Les plantes à l'origine étaient aquatiques et sont sorties de l'eau progressivement. Donc ici on a Cooksonia qui est une des premières plantes terrestres vascularisées.
La migration des plantes, c'est une histoire de reproduction. Aller planter sa graine ailleurs. On poursuit la visite avec Mélissa Porte devant le fruit d'un arbre bombardier qui projette ses graines à 250 km/h à une trentaine de mètres. Mais d'autres plantes voyagent encore plus loin grâce aux animaux et même beaucoup plus loin grâce à l'eau et au vent.
Pour le pollen du pain, ça peut être plusieurs centaines de kilomètres. Et d'ailleurs, sur le grain de pollen du pain maritime, on peut observer deux ballonnets ici qui sont remplis d'air qui permettent de s'envoler plus facilement encore.
D'autres ont des migrations plus modestes, mais quotidiennes. C'est le cas du phytoplancton dans la mer pour rechercher la lumière.
On a des algues unicellulaires qui descendent dans la colonne d'eau quand il fait nuit, qui remontent quand il fait jour parce que ça permet la photosynthèse.
Mais face aux migrations, il y a des comportements xénophobes.
La conquête d'un milieu, c'est prendre la place et il ne faut pas que les autres viennent à côté. Donc c'est le cas de la piloselle. Par ses racines, elle va dégager des toxines qui empêchent les autres plantes d'approcher.
Et oui, parfois les plantes ressemblent à des humains.
Voyage, voyage.
Les plantes voyagent aussi à cause du réchauffement climatique.
Oui, on le constate partout sur la planète, mais une étude réalisée sur plus de 250 espèces de plantes forestières en Europe sur 40 ans vient de produire un résultat contre-intuitif. Seulement 15% de ces végétaux migrent vers le nord pour trouver des températures plus adaptées, alors que plus d'un tiers progresse vers l'ouest de 3,5 km par an. La cause, non pas le réchauffement climatique, mais la pollution à l'azote dans l'air, l'industrie, les voitures et dans le sol, les engrais. L'azote est un nutriment essentiel aux plantes. L'azote, il donne la bougeotte.
Voyage, voyage.
De Désirless qui restera dans la tête de certains. Florent Guignard pour C'est dans ta nature. Et le journal dans une minute. A tout de suite.
Sans cesse, nous nous battons pour protéger les journalistes. Sans limite, nous nous battons pour contrer la propagande. Sans jamais reculer. sans jamais abandonner. Sans frontières. Mais pas sans vous. Nous avons besoin de vous pour défendre la liberté de la presse et votre droit à l'information. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières, fight for facts.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Quel dialogue possible entre hindouisme et christianisme? Le livre de Yann Vagneux, Une émulation de sainteté, est une invitation à ce dialogue et une plongée dans l'hindouisme et la ville sainte de Bénarès, créée par le dieu Shiva, posée sur le Gange, fleuve sacré de l'hindouisme.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU.
RFI.